à voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, nous réécoutons la rencontre en 2014 entre Sébastien Le Foll et Jean d'Ormesson qui vient de nous quitter. En partenariat avec Le Point. Ce soir, du côté de chez Jean.
La voix que nous allons écouter cette semaine est celle de l'écrivain préféré des Français. Depuis les années 70, il s'arrache ses livres, il goûte son érudition joyeuse. La littérature française a un visage, le sien. Il l'incarne, la célèbre. On se demande même parfois s'il n'a pas écrit « Les mémoires d'outre-tombe »,« Les misérables ». Jean d'Ormesson, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais vous présenter sous votre véritable identité. Oui. Comte Jean Bruno Vladimir François de Paul Lefèvre d'Ormesson. Alors, qui eût cru en 1793 que l'écrivain préféré des Français, plus de 200 ans plus tard, en 2013, serait un aristocrate?
Alors, on peut tout de suite dire que le premier mot que vous avez prononcé, c'est ce qu'on appelle un titre de courtoisie. Ça n'existe pas. Ma famille est une famille d'artisans. Nous nous appelons Lefèvre. Probablement, ça devait être des gens qui s'occupaient de métaux, probablement, d'orfèvre, peut-être.
Vous êtes un Rome, un ferrailleur ?
Oui, quelque chose comme ça. C'est ça, un Rome ferrailleur. Et assez tard par rapport aux vieilles familles, ces ferrailleurs deviennent notaires ou greffiers et entrent dans cette catégorie de Romains qui se mettent au service du roi. Avec un esprit d'indépendance dès le début. Et l'illustration de la famille est quelqu'un qui s'appelle Olivier d'Ormesson. Les Lefèvre ont une propriété au nord de Paris qui a disparu du côté d'Anguin, qui s'appelle Ormesson, et ils prennent le nom d'Ormesson. C'est ce qu'on appelle la noblesse de robe, par opposition à la noblesse d'épée. La noblesse d'épée remonte au 12e, 10e, 11e siècle, et la noblesse de robe remonte quelquefois au 16e siècle, comme tout. Et Olivier d'Ormesson a une réputation, c'est d'être honnête. On disait, il y avait un slogan, comme ça, qui était « courageux comme un Guise, spirituel comme un Mortemart ». Les Mortemart, Madame de Montespan était Mortemart, et c'était des gens qui avaient la réputation d'être très drôles et honnêtes comme un Ormesson. Et quand Louis XIV, à la mort de Mazarin, prend le pouvoir et qu'il commence à se méfier de Fouquet, qui est son ministre des Finances et qui a un admirable château qui s'appelle Vaux le Vicomte, et où il donne une fête à tout casser qui ne plaît pas beaucoup à Louis XIV, tout jeune encore, qui vient de prendre le pouvoir. Versailles n'existe pas encore, n'est-ce pas ? Et Louis XIV décide d'abattre Fouquet, son ministre des Finances. Ça arrive que le chef de l'État soit mal avec un de ses principaux ministres. Et il se dit, qui est-ce qui pourrait me servir le mieux? Il y a quelqu'un qui est très honnête, au bord du jansénisme. C'était des gens très, très rigoureux, vous savez, ils ne prêtent pas vraiment à rire. Et il se dit, d'Ormesson va être parfait. Et alors Olivier d'Ormesson arrive, examine les choses, et découvre que Fouquet est coupable, mais pas tellement plus coupable que par exemple Colbert, qui est son grand ennemi et qui est maintenant le favori du roi. Et le roi voulait la tête de Fouquet, et d'Ormesson, nous savons tout ça par les lettres de Madame de Sévigné, d'Ormesson propose l'exil. Et le roi commue. Mais en général, quand on commue, quand on exerce ce droit de grâce, on descend dans la peine. Et lui, il monte dans la peine. Il commue l'exil en prison perpétuelle. Et donc, Olivier d'Ormesson a été ruiné, a perdu tous ses postes. Et il a quand même eu sa revanche. Louis XIV, vieillissant, a dit à son fils, votre père était un honnête homme. Alors ça, c'est la gloire de la famille. Et pour ma part, j'ai appliqué la formule de Chateaubriand, que j'aime beaucoup, qui dit, l'aristocratie a trois stades. Le premier stade, c'est les services qu'elle rend au peuple. Le deuxième, c'est les privilèges qu'elle continue à garder. Et le troisième stade, celui où nous sommes, c'est celui des vanités. Alors on peut supprimer le comte, mais je m'appelle en effet Lefèvre d'Ormeaux.
N'y a-t-il pas une ironie à voir cette France républicaine hein, qui a rejeté l'ancien régime, la monarchie, vous célébrez, vous l'aristocrate aujourd'hui ? Est-ce que vous ne seriez pas la mauvaise conscience de la France républicaine ?
Alors, je vais vous dire, toute la famille de mon père, tous les d'Ormesson, ont toujours été, comme je vous l'ai dit, assez proches du jansénisme. Et il y a une étude remarquable d'un grand ami à moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jacques Julliard, qui a étudié le jansénisme et qui voit dans le jansénisme une des racines de la gauche française. Et ma famille a toujours été ce qu'on appelait une famille libérale. Alors c'est intéressant parce que le mot libéral aujourd'hui a une connotation de droite. Mais sous la monarchie, le libéral avait une connotation de gauche. Et ma famille a toujours été comme les parlementaires, les Lamoignons, ou les Maupoux, a toujours été un peu en marge de la monarchie et plutôt à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que mon père était ce qu'on pourrait appeler un chrétien de gauche. Il était disciple, ça ne dit plus grand-chose aujourd'hui, quelqu'un qui s'appelait Marc Sangnier, qui était le Sillon, qui était le grand adversaire de l'Action française, qui était la gauche catholique. On les appelait démocrates populaires. Ça n'a rien à voir avec la démocratie populaire à l'époque de Staline. Les démocrates populaires étaient des gens de centre-gauche. Et mon père a été ambassadeur du Front populaire. Il a été nommé par Blum et il n'était pas socialiste, mais il était très fidèle au gouvernement et il n'aimait pas du tout qu'on critique Léon Blum et le Front populaire qu'il représentait. Et ce qui avait d'intéressant, c'est qu'il avait épousé ma mère qui appartenait à une famille monarchiste, franchement réactionnaire, ultra-catholique. Et donc, j'ai ces deux tendances dans ma famille.
Et il y a cet arrière-arrière-grand-père qui a voté la mort du roi.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous avez un Lepelletier, encore une famille de parlementaires, qui avait acheté une propriété qui s'appelait Saint-Fargeau, qui était un vieux château, très vieux, très grand, qui remontait aux frères de Hugues Capet. Et un des Lepelletier de Saint-Fargeau, Louis Michel, est devenu député de la noblesse à la Constituante et il s'est lié avec un avocat du nord de la France qui s'appelait Robespierre. Et il n'a pas été à la législative, mais il a été à la Convention nationale et il a voté la mort du roi. Donc, c'est dans ma famille réactionnaire qu'il y a un régicide.
Est-ce qu'il y a une malédiction, Jean Messon, à être bien né ?
Vous savez, je ne vais pas me présenter à vous comme un homme de gauche. Je crois que je passe pour un homme de droite et j'assume très bien cette catégorisation. J'ai deux caractéristiques. D'abord, je crois au progrès. C'est très intéressant, vous savez, l'idée de progrès. Elle est un peu abandonnée par la gauche aujourd'hui.
Un peu par tout le monde, non ?
Et un peu par tout le monde. Évidemment, aujourd'hui, on croit beaucoup moins au progrès. L'idée que le nucléaire et la science vont faire du bien, vous savez, c'est une idée qui est quand même très battue en brèche. Et la deuxième chose qui me sépare peut-être d'un certain nombre de gens de droite, c'est que je crois fondamentalement, vraiment fondamentalement, à l'égalité des gens. Je crois à l'égalité. Je me demande quelquefois s'il y a des gens plus intelligents que d'autres. Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres. Et que, de droite ou de gauche, la tâche qui nous est incombée, c'est de donner toutes ces chances à tous les jeunes gens. C'est ça qui me paraît. Donc, l'idée d'une aristocratie, c'est très très loin de moi.
Alors cependant, il y a chez vous quelque chose de vraiment de droite, c'est cet attachement viscéral à l'institution familiale. Vous écriviez d'ailleurs en 66 dans votre livre « Au revoir et merci ». J'ai d'abord appartenu à ma famille.
Oui, c'est vrai. Alors, j'aurais pu être d'extrême gauche. J'aurais pu être d'extrême gauche. Puisqu'on parle de ma famille, mon père était diplomate. Et donc, mon père appartenait à cette tribu qui se promenait encore avec des plumes sur la tête. J'ai vu mon père en habit d'ambassadeur, habillé de façon invraisemblable, de façon plus invraisemblable que les académiciens, avec vraiment les plumes sur la tête et montant dans des carrosses traînées par 6 chevaux blancs quand il allait déposer ses lettres de créance. Alors évidemment, les idées me viennent en foule. D'abord, j'ai vécu au milieu des privilèges. Mais c'était des privilèges républicains. C'était des privilèges républicains. Aussi loin que je remonte, et il y avait des cuisiniers, des femmes de chambre, des chauffeurs, mais c'était les gens de la République. Mon père dépensait tout ce qui... Mon père n'avait pas de fortune, aucune fortune. Mais il avait un traitement d'ambassadeur, de ministre en Allemagne, d'ambassadeur ensuite. Et donc, j'ai vécu dans les privilèges républicains. D'un côté, j'avais les privilèges républicains, du côté de mon père, et du côté de ma mère, j'avais un château. Mais comme on n'avait pas de fortune, ce château, qui était un château historique, Saint-Fargeau, qui est devenu Plessis-les-Vaudreuil dans son plaisir de Dieu, c'était un château où il y avait quelque chose comme 300 chambres, dont 290 étaient fermées, où il n'y avait pas de salle de bain. Il n'y avait pas de salle de bain. Il y en avait une. Il y avait une salle de bain. Le chauffage n'était pas fameux. Hein. Et il y avait une cuisinière et une personne. Dans ce château, il aurait fallu 40 personnes, n'est-ce pas ? Et donc, j'ai vécu dans ce luxe qui était un château un peu misérable. Et ça a été un des drames de ma vie, c'est que je n'ai pas pu garder le château. Et de l'autre côté, sans aucune fortune, mon père, ambassadeur, était entouré de tous ces privilèges diplomatiques qui étaient à l'époque considérables. À l'époque, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas de télévision, les communications n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, et l'ambassadeur avait vraiment un grand pouvoir. C'était une espèce de proconsul à l'étranger, avec une cour, presque une cour autour de lui. Et donc, j'ai vécu, en effet, dans ces privilèges, encore une fois, républicains.
Jean d'Ormesson, vous avez passé votre enfance dans une valise diplomatique. D'ailleurs, vous avez à peine 3 semaines quand votre père est nommé diplomate en Bavière, où on parle déjà d'un certain Hitler.
Quand mon père arrive à Munich en 1925, Hitler est en prison. Il vient de rater son putsch et il est en prison à Munich. Et quand mon père reste très longtemps à Munich, il reste 8 ans, ce qui pour une mission diplomatique est très long, et il est à Munich, il n'est pas consul, il est ministre. Il y a naturellement un ambassadeur à Berlin, mais il est ministre parce que la France, la République, essaye, c'est une illusion, de séparer la bonne Bavière de la mauvaise Prusse. Et s'il y a eu un peu de résistance, je crois que c'est acquis maintenant, à Hitler, c'était plutôt dans certaines vieilles familles prussiennes, plutôt qu'en Bavière. Et pour mon père, ça a été un désespoir. Il était très antimilitariste. Il était un élève de Briand et de Barthou. Et il était plutôt germanophile. Il était en tout cas ardemment pour le rapprochement franco-allemand. Et l'arrivée de Hitler en 1933 au pouvoir a été pour lui une déception affreuse et un immense chagrin. Et plus qu'un chagrin, ça a été un drame, parce qu'il était violemment anti-nazi, très violemment. Et tous les matins, au courrier, il y avait des lettres d'insultes et souvent des photographies de mon père avec les yeux crevés. Je me rappelle ces photos qui arrivaient le matin. On prenait son petit déjeuner et on regardait les photos avec mon père avec les yeux crevés. J'ai compris comme ça que l'histoire était tragique. Et mon père n'était naturellement pas pour Staline. Mais entre Staline et Hitler, il a très tôt choisi Staline. Et un des autres drames de mon père, je me souviens, il était accablé, c'était en 1938, il était déjà ambassadeur au Brésil, il avait été en Roumanie et ensuite au Brésil, et l'annonce du traité germano-soviétique, c'était l'écroulement pour mon père, et à partir de ce moment-là, il savait que la guerre était inévitable.
Vous étiez un enfant à l'époque, mais est-ce que vous vous souvenez, vous avez des souvenirs précis de la montée du nazisme ?
Écoutez, j'ai un souvenir très 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 précis, qui est probablement mon souvenir le plus ancien. Je dois avoir 6 ans déjà, ce qui est assez tard. J'ai très peu de souvenirs à 5 ans ou à 4 ans, comme beaucoup de mes amis. Et à 6 ans, ça doit être en 1931 ou 1932, c'est déjà ancien, je suis sur le balcon de la Légation de France à Munich. L'Isar coule pas très loin, l'Isar c'est le fleuve qui passe à Munich, et il y a un cortège de gens qui chantent très bien, comme les Allemands chantent, peut-être pas très nombreux, mais enfin plusieurs centaines de jeunes gens, des gens jeunes en général, derrière un drapeau rouge avec un rond blanc au milieu et quelque chose de bizarre, comme une croix, c'était la croix gammée, dans ce rond blanc. Et tous les gens applaudissent le long du passage du cortège, et moi, à 6 ans, je me mets à applaudir. Et tout à coup, surgit derrière moi mon père, qui me flanque avec beaucoup de douceur, c'était un homme très doux, et il me flanque la seule claque qu'il m'ait jamais donnée. Et naturellement, j'étais un peu abasourdi, et plus tard, sûrement plus tard, vous savez, quand on raconte ses souvenirs, la plupart du temps, on les réinvente. Mais je me rappelle très bien plus tard mon père me disant, mon père était la tolérance même, il était la tolérance. Et il me dit, il y a une limite à la tolérance, c'est l'intolérable.
On sent de l'admiration dans votre manière de parler de votre père, mais est-ce que la grande passion, le grand amour de votre vie, ce n'est pas votre mère ?
Oui, c'est-à-dire, j'avais un frère que j'aimais beaucoup, qui avait 5 ans de plus que moi. Et alors c'est amusant parce que moi je travaillais très bien. Et j'avais un frère qui lui travaillait très très mal. très très mal. C'était vraiment le cancre dans toute sa splendeur, qui choisit de s'asseoir près du radiateur et qui dort pendant les cours. Et je me rappelle, il y avait à ce moment-là, je ne sais pas si ça existe encore, des carnets de notes tous les mois ou toutes les semaines, et mes parents s'arrachaient les cheveux. Et ma mère, je fais des digressions, ma mère avait une scandaleuse préférence pour moi, sûrement. J'étais le petit dernier, fragile, de mauvaise santé. Je ne veux pas vous parler trop de moi, quand même. À quelques semaines, j'étais condamné. Le lait m'empoisonnait, le lait de ma mère m'empoisonnait. Et on a cru que j'étais perdu et on m'a élevé au jus de carotte. On m'a élevé au jus de carotte, ce qui fait que maintenant j'adore le lait et je déteste les carottes.
Mais vous adoriez votre mère, souvent d'ailleurs comme les petits garçons qui ont été malades.
Je vais vous dire, c'est absolument dégoûtant. Les bons sentiments coulent à flot. Mes parents s'aimaient. Je n'ai jamais entendu un mot entre eux. L'idée de se séparer, l'idée de divorce, c'était très intéressant. Mon père était quand même un homme, comme je vous l'ai dit, plutôt de centre-gauche, qui représentait le Front populaire. Et il était incroyablement réactionnaire en matière de mœurs. En matière de mœurs, il était une sévérité inouïe. Quand j'étais, par exemple, à l'école normale, quand le téléphone sonnait, et que je me précipitais au téléphone parce que je me disais, ça peut être une petite amie à moi. Et s'il entendait une voix de femme, j'avais 19 ans, hein, ou 18 ans, et s'il entendait une voix de femme qui me demandait, je l'entendais dire, qu'est-ce que vous lui voulez encore? Ce qui fait évidemment que j'ai été très brimé dans ma vie sentimentale par mes parents qui m'adoraient. Et ma mère m'adorait. Quand j'ai fait des folies dans ma jeunesse, elle m'a défendu bec et ongle. Et en effet, j'étais très très lié avec elle. Quand j'étais directeur du Figaro, je me rappelle que je passais la voir presque chaque soir. En tout cas, deux fois par semaine. Et si je ne passais pas, elle était assez mécontente. Elle était très autoritaire. Et beaucoup des traits de mon grand-père dans Au plaisir de Dieu sont en réalité un portrait de ma mère. Et dans mes livres, j'ai parlé beaucoup de mon père. Et j'ai très peu parlé de ma mère, sauf à sa mort. J'avais écrit dans l'émotion de sa mort, j'avais écrit un article que j'avais montré à mon frère, et mon frère m'avait dit, il n'est pas question que tu publies ça. Vous savez, c'était encore la mentalité, maintenant ça paraît invraisemblable, on étale sa vie privée partout, mais à l'époque, même des bons sentiments, ça ne se disait pas. Et je n'ai pas pu résister, je l'ai publié dans le Figaro, et c'est évidemment un des textes auxquels je suis le plus attaché. Alors vraiment, je crois que ma mère savait que j'avais pour elle une espèce de dévotion, mais qui n'était probablement pas grand-chose en comparaison de celle qu'elle avait pour moi.
Vous n'avez jamais eu envie de vous révolter contre votre famille? C'est à désespérer Bourdieu, votre histoire.
Mais c'est un drame. Quand je suis entré en Cagne, tous mes amis étaient non pas communistes, ils étaient trotskistes. Mais vous les connaissez. Il y avait là Lefort, un des fondateurs de Socialisme et Barbarie, qui était un des trotskistes, un lambertiste. C'était la partie des trotskistes d'où est sorti Jospin, qui est un homme que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup. J'ai beaucoup d'affection et de respect pour lui et pour sa femme, qui écrit des livres merveilleux. Et donc j'étais ami de Lefort, j'étais ami d'un grand psychanalyste qui s'appelle Jean Laplanche, qui était un de mes amis les plus intimes, et de son ami à lui, ils étaient intimes tous les deux, qui s'appelait Pontalis, et c'était deux élèves de Lacan plus tard, et ils ont écrit un très célèbre dictionnaire de la psychanalyse. Ils sont d'ailleurs, comme souvent, les amis intimes, ils sont brouillés à mort, mais enfin j'étais très lié avec eux. Donc j'étais très lié avec ces trotskistes, et c'était très amusant parce que je vivais dans ce milieu à l'école normale, et Léon Blum, par exemple, apparaissait comme le suppôt de la bourgeoisie, celui qui avait trahi le socialisme pour gérer les affaires de la bourgeoisie. Vous vous rappelez les vers d'Aragon, « Feu sur la social-démocratie, feu sur Léon Blum ». Ça, c'était ce que j'entendais autour de moi. Et j'arrivais à Saint-Fargeau, chez mes grands-parents, où Léon Blum apparaissait comme un bolchevique dangereux, avec un couteau sanglant entre les lèvres. Et alors j'ai compris très vite la relativité des choses et combien nous sommes menés par la mode, par les passions, par les préjugés. Et j'ai essayé de me débrouiller au milieu de toutes ces difficultés. Et en effet, mon père me disait souvent, c'est difficile à comprendre, je ne sais pas, de temps en temps je me dis que tu es communiste, de temps en temps tu as des côtés fascistes, au fond tu es un anarchiste. Au fond, j'étais rien de tout ça, je ne savais pas très bien où j'en étais.
Un anarchiste tempéré, en même temps. Non seulement vous n'êtes jamais révolté contre votre famille, mais en plus, qu'est-ce que j'apprends, Jean d'Ormesson, vous êtes resté chez vos parents jusqu'à l'âge de 37 ans.
Oui, j'ai été, parmi les choses que j'ai inventées, peut-être j'ai inventé un genre littéraire qui s'appelle l'histoire-fiction, peut-être j'ai inventé la mode de la cravate de tricot noir. J'ai aussi été un précurseur de ce qu'on appelle le cocooning, c'est-à-dire que je vivais chez mes parents. C'est vrai, c'était incroyable. J'étais probablement un peu paresseux, un peu nonchalant. Je me disais que c'était compliqué d'être libre. Là, j'étais bien, là, j'étais tranquille.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2014 de Sébastien Le Foll avec Jean d'Ormesson qui vient de nous quitter. En partenariat avec Le Point. À voix nue, réalisation Anne de Pelchin, prise de son Benjamin Thuot, coordination Claire Poinsignon. À voix nue, s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.